Vieille Branche, une production Nouvelles Écoutes en partenariat avec Radio Nova.
J'avais une très grande colère. Voilà, j'avais une très grande colère. Une colère qui était une colère historique contre l'injustice de l'histoire, qui me concernait moi, mais qui concernait aussi les Algériens et tous les peuples opprimés.
Bonjour, bonjour. Enregistrement, c'est bon, c'est lancé.
Pour cet épisode de Vieille Branche, j'avais rendez-vous sur Zoom avec Michel Sard. Sur Zoom, pas à cause de la pandémie mondiale, mais parce que Michel Sard habite au Chili et que moi, je suis à Paris. Il était donc 10h du matin chez elle et 16h pour nous. Michel Sard, on avait déjà tenté de se joindre, ça avait raté une fois, mais j'étais très contente de pouvoir lui parler deux fois, d'autant plus que la conversation a longuement continué après la fin de l'enregistrement. C'est elle qui est devenue l'interview et ainsi elle m'a montré ce qu'elle dit pendant l'interview et que vous allez entendre, qui est que ce qui l'intéresse avant tout, c'est les autres. Michel Sard, elle m'a permis aussi de faire le lien avec beaucoup d'autres vieilles branches interviewées ces trois dernières années. Vous allez l'entendre, il y a Delfeuille de Ton, Francine Christophe ou bien Isabelle Le Courtivron qui apparaissent dans mes réflexions.
Oui, c'est bien que... Puis c'est grâce à elle qu'on s'est connus. Donc, et vous allez en faire d'autres...
De votre groupe d'amis, je ne sais pas.
Des interviews. Vous avez d'autres interviews en vue.
Vieille branche chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille branche. Pendant une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de la cocaïne, ça ne me fait rien.
De toute de la
je
vie.
Suis encore désirable.
Évidemment que c'est important.
Récolter ces paroles aujourd'hui, c'est aussi précieux qu'absolument nécessaire. Parce que depuis 4 ou 5 ans, chaque année qui passe rend cette citation d'Antoine Gramsci plus limpide, parfaitement adaptée à la drôle d'époque qu'on vit. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et pour les terrasser, ces monstres, ou au moins les tenir à distance, voire même les apprivoiser, écoutez les mots de nos vieilles branches, qui forment ensemble notre mémoire collective. C'est un véritable bouclier.
Ah, vieille branche !
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance de leur vie, de l'amour, de la mort, de ce monde qu'ils ont connu et qui n'est presque plus, de leurs souvenirs d'enfants, de leur adolescence, de leurs amis, de leur passion pour l'art, la musique, les mots, la politique, du regard qu'ils portent sur l'époque, sur les jeunes, sur les combats qui se préparent. Parce que la beauté de l'âge, c'est qu'il libère la parole, et c'est ça que vous entendez dans Vieille Branche. Je suis Marie Misset, et aujourd'hui, je suis virtuellement dans la bibliothèque de Michel Sard. Bonjour Michel Sard, merci de prendre à nouveau ce temps pour nous. Je dis à nouveau car nous nous sommes déjà parlé et on s'était heurté aux failles de la technologie qui nous permet, cela dit, et c'est assez merveilleux donc, de nous entretenir aujourd'hui alors que je suis à Paris et que vous êtes Michel au Chili, à Santiago. Michel Sard, vous êtes une grande universitaire avec les pieds dans trois pays, peut-être même plus. Vous avez longtemps enseigné à Georgetown, aux États-Unis. Et pourtant, ce qui a été le fil rouge de votre travail, c'est le destin, l'histoire des femmes françaises. Vous êtes d'ailleurs fait une belle place dans le monde littéraire avec des biographies de femmes écrivaines, vos miroirs. Il y a Colette, Marguerite Yourcenar, des femmes qui ne se revendiquaient pas féministes et qui ont pourtant tracé la route pour les autres à la machette. Vous avez enquêté dans leurs écrits pour y trouver leur vie. Et puis, vous avez fini. C'est presque logique, par l'écriture aussi, par chercher la vôtre de vie, ou plutôt ses recoins, ses non-dits, votre histoire d'enfant juif séfarade que votre maman a transformée en petite française catholique après la guerre. C'est une véritable enquête que vous avez menée et qui a commencé avec le livre « Revenir du silence », une expression qui évoque presque une résurrection, et puis peu après, à la recherche de Marie-J, une enquête sur votre famille paternelle disparue dans les camps. Ces enquêtes, vous les pensez aussi pour nous, pour le futur, à l'usage d'une génération sans doute qui n'aime plus trop ça, les silences qui ont marqué la vôtre. Alors, avant de revenir sur votre enfance, laissez-moi commencer par une question rituelle. Comment est-ce que vous avez vécu l'année qui vient de se dérouler ?
Alors, d'une façon un peu contradictoire, je vous répondrai. Parce qu'au départ, quand il y a eu le confinement, pour moi, le confinement, je l'ai tout de suite associé à mon enfance, c'est-à-dire à la Deuxième Guerre mondiale, où nous avons été non seulement confinés, mais cachés. Et tout à fait au début, quand on a commencé, par exemple, en Italie, à annoncer que on serait obligé de faire des tris entre les personnes qui mériteraient d'être d'être soignée et celle qui serait plus âgée et qui ne mériterait pas, j'ai tout de suite pensé que, à la sélection dans les camps. Ça a été une réaction d'anciennes petites filles menacées par les persécutions de la Deuxième Guerre mondiale. Mais confiner, ce n'est pas caché. Et je me suis très vite rendu compte que, en fait, si je sortais de mon confinement, ce n'était pas parce qu'on venait me chercher pour m'emmener, m'envoyer dans un camp d'extermination, c'était pour me soigner, c'était pour me protéger. Et puis, peu à peu, les opinions publiques se sont formées et on s'est rendu compte que, finalement, les vieux, on ne cherchait pas du tout à les éliminer, mais au contraire, ils étaient plutôt privilégiés. Et ce qui se passe maintenant, par exemple, avec la vaccination, dans tous les pays du monde, c'est que les premiers à être vaccinés, les premiers à être protégés, c'est quand même les plus vieux. Donc, ça m'a beaucoup rassurée. Et puis, je dois dire que ça vient aussi de mon enfance, on en reparlera, mais la ligne de crête de ma vie, ça a été la survie. On a survécu pendant la guerre, grâce à ma mère en particulier, qui a su se débrouiller pour nous cacher, pour aller d'un endroit à un autre. Et finalement, j'ai survécu. Et là, je me suis dit, je ne veux pas mourir maintenant du Covid, comme je ne voulais pas mourir pendant la guerre dans un camp d'extermination. Je veux survivre. Et les techniques de la survie, je les connais bien. Ma mère me les a enseignées plus tard quand elle m'a reparlé de mon enfance et de sa vie. Et donc, j'ai vécu ça selon les techniques de survie que je connais bien. Donc, je ne suis pas sortie du tout. Ça fait un an et demi que je ne sors pas. J'ai heureusement une maison et un jardin. Je fais le tour du jardin. Je vis avec un compagnon et on n'est pas tout seul. Au fond, on a beaucoup parlé de tous les aléas et de toutes les misères qu'apporte le confinement. Je ne vais donc pas en reparler, sinon pour dire que ça a été dur de ne pas aller en France, par exemple, comme j'en ai l'habitude tous les ans. Ça a été dur de ne pas voir mes petits-enfants, comme tout le monde. Mais il y a aussi des vertus dans le confinement. Et ce confinement, il m'a apporté, franchement, quelque chose. Il m'a apporté, d'abord, je trouve que c'est quand même extraordinaire de réussir à vivre virtuellement, complètement, sans sortir de chez soi, et d'avoir accès au monde entier. Par exemple, nous parlons, vous et moi, vous êtes en France, je suis au Chili, et c'est comme si vous étiez assise à côté de moi dans ma bibliothèque. C'est quand même, ça a quelque chose de magique, en tout cas pour quelqu'un de ma génération. On a beaucoup dit que c'était épouvantable, mais je trouve que ça a quand même ses vertus. Donc, finalement, ça m'a permis aussi, comme je suis avant tout une écrivaine, de me concentrer sur mon manuscrit actuel, d'écrire, de réfléchir, et de réfléchir en particulier, ça tombe bien que vous me posiez toutes ces questions aujourd'hui, de réfléchir à mon existence, puisque j'arrive quand même à l'âge vénérable de 80 printemps. Donc, le confinement, alors bien sûr, il y a tout le reste, il y a les autres, il y a la maladie des autres, il y a la mort des autres. Enfin, vous me posez la question sur moi-même, je vous y réponds.
Et alors, ce manuscrit sur lequel vous travaillez, c'est le troisième tome, en quelque sorte, de cette recherche que vous avez entreprise sur votre histoire familiale. Votre histoire familiale qui commence pour vous avec votre enfance. C'est quoi vos tout premiers souvenirs d'enfance, Michel Sardou ?
Alors, mon premier souvenir conscient d'enfance, parce que le souvenir direct que j'ai, parce que ensuite, ma mère m'a raconté mon enfance. Donc, elle m'a apporté des souvenirs qui étaient reconstruits par elle, puis reconstruits par moi. Mais le premier souvenir d'enfance que j'ai, c'est en août 1944, quand les Allemands sont venus arrêter mon jeune oncle, qui était dans le Vercors, qui était maquisard, et dont les Allemands avaient découvert la liste de sa compagnie. Il s'appelait Marcel Amont, comme le chanteur. Il était donc le premier sur la liste. Je suis en train de cueillir des fleurs dans le jardin de Fleurs des Alpes, qui était l'endroit où nous habitions. Nous étions réfugiés avec beaucoup d'autres juifs qui portaient des noms, évidemment, des noms d'emprunt. Et je cueillais des fleurs tranquillement. J'ai 4 ans et demi et tout d'un coup, j'entends un bruit de bottes. Et même pour un enfant qui ne sait rien inconsciemment, ce bruit de bottes, ça signifiait, c'est comme si l'ogre rentrait dans la maison. Donc, je lâche mon bouquet et je me précipite. Mes parents habitaient, ils avaient un tout petit appartement au 3e. Je me précipite dans l'escalier et j'ai ce souvenir de m'être arc-boutée sur les poignées des portes extérieures, au 1er, au 2e, avant d'arriver au 3e. Avec le cœur très battant, mais me disant que si je me tenais très très fort à ces poignées de porte, eh bien les ogres allemands ne pourraient pas m'en arracher. Et puis j'arrive en haut, et puis je dis papa les Allemands, et je vois un voisin qui se glisse sous le canapé, et je vois mon père qui sort en tremblant ses faux papiers, et puis mon oncle qui était très impassible, il a 20 ans. Les Allemands ne s'adressent qu'à lui, lui demandent son nom et lui disent « prenez vos affaires et suivez-nous ». Et il s'en va. Et ce souvenir est très fort à cause de la peur que j'ai pu éprouver, sans savoir exactement pourquoi j'avais si peur d'ailleurs, et que j'ai refoulé par la suite, qui est revenu beaucoup plus tard. Et puis à cause du fait que c'était la première fois au fond de ma vie que je voyais quelqu'un qui était arrêté, qui partait. En fait, mon oncle est revenu par la suite, mais il y en a d'autres qui ne sont pas revenus. Et au fond, comme vous savez, j'ai passé une partie de ma vie, au moins dans mon écriture, à rechercher ceux qui ne sont pas revenus.
Alors, redonner une sépulture. Marcel, c'était le bijou de votre famille maternelle, le petit frère de votre mère qui avait été attendu si longtemps. Est-ce que vous vous rappelez, Michel, de la fin de la guerre, pas à travers les souvenirs de votre mère, mais à travers vos souvenirs, celle d'une petite fille qui a été un petit peu délaissée à ce moment-là, la petite Michou?
Oui, alors la petite Michou, elle est très délaissée parce que les parents attendent évidemment la fin de la guerre avec impatience et la libération. On rentre à Paris, on retrouve l'appartement. Bon, il y a un épisode que je raconte dans le livre, le 1er janvier 1945, où nous sommes libérés à Paris, mais où tout le monde n'est pas libéré dans le monde. Puisque mes grands-parents ont été déportés en octobre-novembre 1944. Donc, c'est encore terrible pour beaucoup de gens. Et bon, c'est un réveillon absolument extraordinaire qu'ont organisé mes parents. Et moi, je suis dans une chambre et on m'a un petit peu délaissée parce que mes parents et leurs amis sont partis au théâtre et je suis gardée par mon oncle qui est un jeune homme encore, et qu'on a laissé à la maison avec la petite fille. Et puis, c'est vrai que pendant toute cette période, j'ai été un peu délaissée parce que on a commencé dès la fin de la guerre, c'est-à-dire au printemps 45, à attendre le retour des déportés. Et c'est là que mon père a peu à peu compris que ses parents ne reviendraient pas. Et on savait pas très bien quoi faire de moi parce que mon père, à un certain moment, a perdu la tête et il a essayé de se suicider. Il a été malade pendant des mois et il ne s'en est jamais remis.
Vous avez souvenir, vous, de petite fille, de ce papa qui, en fait, s'étiole peu à peu, se disparaît un peu devant vos yeux?
J'ai le souvenir de mon père avec sa jambe en l'air sur un lit du pont, comme on disait, on l'appelait à cette époque. Et quand mon père était un très beau garçon quand il était jeune, et quand il s'est relevé de cette longue maladie, il avait énormément grossi parce que ma mère le bourrait, lui faisait beaucoup à manger, bien que ce fût difficile à ce moment-là de trouver de la nourriture, et il avait grossi et puis il n'était plus le même, il n'a plus jamais été le même et il ne m'a jamais parlé. Donc le livre que j'ai écrit, le deuxième livre à la recherche de Marie-Gy, qui est le livre sur la reconstitution de la vie de sa mère, que j'ai été chercher dans différents pays d'Europe, je ne l'ai pas écrit grâce à lui, mais je l'ai écrit pour lui, pour lui rendre en quelque sorte sa, sa maman.
Votre mère, elle décide donc à ce moment-là, et c'est une véritable décision, c'est pas un silence qui s'installe petit à petit, c'est une décision qu'elle prend de cacher vos origines. Vous écrivez à ce propos qu'à ce moment-là, votre mère est folle. En fait, vous dites, ma mère, je sais que ma mère est folle. C'est de l'ordre de la folie.
Oui. Oui, je crois qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de thérapeute, il n'y avait pas de psy. Bon, elle n'a eu absolument aucune aide. Et quand elle s'est rendue compte, surtout lorsque ses amis sont revenus, elle a deux amis, deux frères qui sont revenus d'Auschwitz et qui ont un jour, après leur retour, réuni tous leurs amis. C'était une bande de copains, si vous voulez, déjà d'avant-guerre. Et ils ont passé une nuit à leur raconter ce qu'ils avaient vécu et ils leur ont dit, à partir de maintenant, c'est fini, on n'en parlera plus jamais. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que mon père a compris ce qui était arrivé à ses parents. Ça l'a rendue folle, je veux dire, ça l'a rendue folle, elle s'est rendue compte de ce à quoi nous avions échappé, je crois qu'elle n'était pas la seule, et elle a décidé dans sa tête, elle toute seule je crois, parce que mon père n'était pas tout à fait d'accord, que ça n'arriverait pas à sa fille et qu'elle allait transformer sa fille en quelque sorte en une petite Française catholique comme celle qu'elle avait connue dans son quartier,
le
7e arrondissement, au lycée Victor Duruy. Et donc, ce qu'il fallait, c'était à la fois, évidemment, la première chose, c'était de changer de religion. Donc, elle m'a emmenée au Cénacle, avenue de Breteuil, chez les religieuses, pour me préparer au baptême. J'ai un souvenir assez fort du catéchisme, parce que j'étais un peu amoureuse du curé, qui avait une soutane très usée, et qui voulait aller évangéliser les Chinois. Et donc, j'étais très inquiète à l'idée qu'il allait si loin évangéliser les Chinois. Et j'adorais ce curé, l'abbé Le Sa, qui faisait le catéchisme au lycée Victor Duruy. Et puis un jour, on est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que je devais faire ma première communion, j'ai 11 ans, je suis très excitée à l'idée de l'aube blanche du collier de corail que je vais porter. Et à ce moment-là, ma mère me convoque, parce que je ne vois pas d'autres termes, et elle m'annonce très brutalement, je pense qu'elle était elle-même très embarrassée, « Ma fille, tu ne pourras pas faire ta première communion. » Alors, ça a été terrible, évidemment. Bon, je ne comprenais pas, j'essayais de comprendre et à un certain moment, je lui dis « Mais alors, mes grands-parents, ma nonna Mali, comme je l'appelais, nonna Marie, je ne la reverrai pas au ciel parce que je les attendais, j'ai attendu toute la guerre, mes grands-parents, toute l'après-guerre, pardon. Je pensais toujours qu'ils allaient revenir, qu'ils allaient sonner à la porte. Et à ce moment-là, elle m'a répondu très froidement, « Tes grands-parents, ils ne reviendront jamais, ils sont morts parce qu'ils étaient justement juifs. »
Parce qu'elle vous l'a dit, mais il était implicite qu'une fois que c'était dit, c'était dit et on n'en reparlerait plus jamais.
Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai été traumatisée pour un bon moment. Et ça a été le début du silence. Le silence qui a... Bon, on n'en a plus jamais reparlé. Je n'ai jamais osé dire au curé pourquoi je ne faisais pas ma première communion, j'avais cessé les cours de catéchisme. Je me rappelle que je me cachais dans les toilettes lorsque je l'entendais dans les couloirs du lycée. Et puis, peu à peu, y a un refoulement qui se produit. Et d'une certaine manière, j'ai obéi à ma mère, c'est-à-dire que je me suis tue. Il y a eu à la fois, pendant ce temps de silence, il y a eu... ça s'est développé en moi... l'intérêt pour les autres. Parce que comme je ne pouvais jamais parler de moi, je faisais parler les autres. Et je pense que c'est ça qui, au fond, a nourri mon écriture par la suite, parce que, au fond, si j'écris, ce n'est pas tellement pour parler de moi. J'en parle maintenant, je suis beaucoup plus âgée. C'était les autres. Et je n'étais pas là.
Une autre technique de survie, en quelque sorte.
C'était une façon de survivre et d'une certaine façon, de le cacher derrière les autres aussi.
Et ce silence, on ne peut pas imaginer de manière générale que le silence va sans une certaine honte, en fait.
Oui, bien sûr. J'avais honte d'être juive. D'ailleurs, c'est un mot que je ne prononçais jamais à cette époque-là. D'ailleurs, personne ne le prononçait. On trouvait des euphémismes, on ne le prononçait pas. Et puis, il faut bien dire que que chez nous, on n'en parlait pas, mais on n'en parlait pas non plus ailleurs. Hein.
D'ailleurs, c'est des silences qui ont parfois duré sur des générations. Je pense à une histoire personnelle, moi, où une amie, on avait plus de 20 ans à l'époque, on était en études ensemble, a découvert à 22 ans qu'elle était juive. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que tu ne te sois jamais posé la question? En plus, on avait fait des études d'histoire. Et c'est après ces 20 ans qu'elle a posé la question. Mais ça veut dire que la question avant ça n'existait même pas.
Absolument. Vous ne pouvez pas imaginer quand j'ai... publié Revenir du silence, le nombre de lettres et de témoignages que j'ai reçus de gens qui avaient au fond la même histoire et qui avaient découvert. Alors, il y en a beaucoup, par exemple, qui ont découvert qu'ils avaient une grand-mère juive ou un grand-père juif, qui était complètement, alors là, recouvert par les mensonges des familles. Enfin, c'est devenu le secret de famille par excellence. Nice. Dans ces périodes-là, ça existe encore. Hein. Il y a encore des gens qui découvrent que oui, il y a eu quelque part une grand-mère juive dont on n'a jamais parlé et dont on ne sait absolument rien. Donc beaucoup de témoignages. Je me souviens que quand j'ai été présenter le livre en Argentine, puisque ce livre a été traduit en espagnol, il y a une dame qui s'est levée. C'était à l'ambassade de France. Qui s'est levée et qui a expliqué qu'elle ne savait absolument pas qu'elle avait des origines juives, qu'elle avait épousé un militaire argentin, à l'époque donc, de la dictature argentine, imaginez un peu, qui était farouchement antisémite. Elle avait eu des enfants et des petits-enfants, et puis tout d'un coup, je ne sais comment, elle s'est rendue compte qu'elle avait ses origines. Et elle s'est, à ce moment-là, elle a eu un sanglot qui nous a tous pétrifiés en disant « Et maintenant, mes petits-enfants sont antisémites. » Et ça a été quelque chose, il y a eu un silence dans ce sanglot, ça a été extrêmement fort. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement en France.
Et d'ailleurs, c'est la raison qui a poussé votre mère à vous le dire ce jour-là, parce que finalement, vous étiez baptisée, elle aurait pu continuer dans le mensonge. Oui. La raison, c'est qu'il ne faudrait quand même pas que Michou devienne antisémite. Il ne faudrait quand même pas que ma fille soit antisémite.
Oui, il y avait une limite. Et puis, je crois qu'entre-temps, elle était moins folle. Hein. Il s'était passé entre... j'avais 7 ans à mon baptême, j'avais 11 ans lorsque je devais faire ma première communion. Donc, entre-temps, elle avait évolué. Et peut-être que... Et peu à peu, puis peu à peu, le silence a fini par se dissiper. Hein. Et je pense que les théories négationnistes ont beaucoup aidé à dissiper ce silence, parce que comme on n'en parlait pas, ça finissait par ne plus exister. Et quand les thèses négationnistes qui disaient que ça n'avait jamais existé ont commencé à circuler, au fond, on y a presque cru. Et c'est là que les acteurs de ce drame, que ce soit les victimes, que ce soit les justes, que ce soit les résistants, se sont dit on ne peut pas accepter ça. Et à ce moment-là, on a commencé à sortir du silence.
Vous parlez des justes qui vous, personnellement, vous et votre famille, vous ont permis de survivre pendant la guerre. Et c'est vrai que c'est une question, c'est comment ça se fait qu'eux aussi se soient tués pendant 20 ans après la guerre.
C'était des gens assez extraordinaires. Hein. Ils étaient persuadés qu'ils n'avaient fait que leur devoir. Il y a eu vraiment des gens... Bien sûr, on a beaucoup parlé des salauds. C'est pour ça que moi, je préfère, étant de tempérament plutôt optimiste, parler des héros, parce que c'était des héros, ils risquaient leur vie, la vie de leur famille. Celui qui nous a fait passer la ligne de démarcation était un notable d'Angoulême. Il nous a absolument rien demandé. Il faisait passer des gens constamment. J'ai retrouvé après, beaucoup plus tard, après le livre, j'ai retrouvé sa fille et je lui ai dit, je veux absolument faire quelque chose pour votre père. Et elle m'a dit... Pourquoi il a fait ça pour tout le monde, c'est la moindre des choses. Vous voyez, il y avait des gens comme ça. Et je crois qu'il ne faut quand même pas les oublier, ceux-là.
Mmh. Sur ce silence mortifère, je recommande également un livre sorti au début de l'année par Hugo Lindenberg qui s'appelle « Un jour, ce sera vide ». En écoutant Michel Sartre, j'ai fait le lien avec Francine Christophe, interviewée pour Vieille Branche il y a 2 ans. Rescapée des camps, elle racontait notamment les premiers temps de la libération, quand ils se jetaient sur la moindre épluchure de fruits ou de légumes, comme des bêtes, c'est elle qui le dit. Elle disait finalement comment les nazis avaient réussi ce qu'ils voulaient, déshumaniser leurs victimes. Et en écoutant Michel, j'ai pensé que l'autre réussite des nazis avait été, pour un temps seulement heureusement, la disparition pure et simple des juifs dans le discours public, dans le discours tout court, car avec ce silence et cette honte, c'est ce qu'il se passait finalement. Finalement, la parole est enfin sortie des décennies plus tard, notamment, comme le dit Michel Sartre, parce que les négationnistes commençaient à parler trop fort. Chose que nous avait aussi dit Delfeuille de Thon, ancien de Charlie Hebdo, pour défendre la liberté d'expression à tout prix. Il disait que c'est parce que ceux qui niaient la Shoah étaient trop entendus que ceux qui l'ont vécu ont commencé à se faire entendre. Bref, plus on avance dans cette émission, plus les liens se font. Plus tard, pendant vos études, on vous a accusé, disons que c'était quelque chose qu'on pouvait dire sur vous, d'être inauthentique.
Oui, parce que j'étais très fausse. Hein.
Forcément.
Ma mère m'avait éduquée, j'avais été élevée dans un bon lycée de la bourgeoisie, donc au lycée Victor Duruy, qui était un lycée de filles à l'époque. Donc, je m'exprimais de façon très châtiée. J'étais très timide, alors j'avais un côté le ton de voix, vous savez, la tonalité un peu Marie Chantal, comme on disait à cette époque. Et donc, mes copains de fac se moquaient un peu de moi parce que ils avaient l'impression que j'étais un peu je représentais la bourgeoisie contre laquelle nous luttions tous à cette époque, puisque dès l'adolescence, j'ai commencé, quand je suis sortie du silence, à finalement devenir très rebelle, sur le plan personnel comme sur le plan politique.
Personnel quoi, par exemple ? Comment s'est manifestée personnellement votre rébellion ?
Ben, d'abord, il y a eu le fait que les hormones ont commencé quand même à travailler, comme tout le monde, vers 17 ans, 18 ans. Et mes parents étaient absolument pétrifiés d'angoisse à l'idée que je pourrais ne pas être vierge au mariage, d'une part, et que je pourrais ne pas épouser un bon catholique.
À ce point-là ?
Ah oui, parce que ma mère, sa stratégie, c'était une longue stratégie. Il fallait changer de religion, il fallait changer de nom, et il fallait épouser et avoir des enfants qui soient les enfants d'un bon français catholique. Donc, si je ramenais un garçon juif à la maison, elle me faisait la tête. Donc, le premier amoureux que j'ai eu, il a fallu tout de suite se marier parce qu'il n'était pas question de vivre un amour sans se marier. On était à l'époque où il n'y avait pas de contraception encore. On était à l'époque où il n'y avait pas l'avortement était clandestin. Donc, c'était les arrière-cuisines, les faiseuses d'anges, les médecins marrons qui vous bandaient les yeux et qui vous faisaient des curetages à vif. Enfin, c'était vraiment…
Alors, pardonnez-moi l'intrusion, mais est-ce que vous avez vécu ça, vous, de votre côté ?
J'ai vécu ça.
Clandestinement ?
Oui, oui. Après avoir eu mon bébé, parce que j'ai eu un bébé tout de suite, après m'être mariée avec mon amoureux, si vous voulez, c'était quand même très très dur pour les femmes. Et puis on s'est mariés, mais j'étais en première année d'université, en première année de fac. On n'avait pas d'argent, évidemment. Mon mari de l'époque, mon jeune mari, était étudiant lui aussi. Donc il fallait à la fois s'occuper d'un bébé. Travailler parce que on n'avait pas d'argent, et puis faire toutes mes études jusqu'à l'agrégation. Je les ai faites en travaillant à plein temps et avec un bébé. Donc c'était franchement pas terriblement facile cette époque-là. Et donc il y a une en moi, je crois à ce moment-là, une espèce de rébellion qui a commencé à monter et qui s'est cristallisée aussi sur la situation politique parce que c'était la guerre d'Algérie. Et j'étais à la Sorbonne, j'étais au quartier latin. Bon, c'était la vie de quartier latin que moi, je ne vivais pas complètement parce que j'avais un bébé à la maison. Il fallait quand même que je m'en occupe. Donc, mais que mes camarades vivaient. Et c'était quand même aussi, c'était quelque chose d'extraordinaire. La vie de café à cette époque-là, c'est quelque chose dont j'ai la nostalgie. Les copains, les camarades, on disait les camarades, les bandes, les discussions idéologiques pendant des nuits entières. Enfin, tout ça qui a précédé mes 68. Mais c'était en même temps une période très, très difficile pour nous, parce qu'on était évidemment, on était anticolonialistes. Il y avait la torture en Algérie, il y avait enfin, tout ce qu'on découvre maintenant, nous, on le connaissait à l'époque. On était assez pro-FLN, on courait des risques. Hein, c'était, bon.
Et votre mère, elle voyait ça de quel œil ?
Ma mère, elle ne savait rien de tout ça. J'étais mariée. En mai 68, mes parents étaient effondrés quand ils se sont aperçus que j'étais sur les barricades. Quoi. J'avais une très grande colère. Voilà, j'avais une très grande colère, une colère qui était une colère historique contre l'injustice de l'histoire, qui me concernait moi, mais qui concernait aussi les Algériens et tous les peuples opprimés. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à tous les peuples opprimés. Donc, il y avait la partie personnelle et puis il y avait la partie historique. Et pour moi, l'histoire, ça compte énormément. Vous comprenez pourquoi. Ma vie a été complètement modelée par l'histoire.
Modelée, oui.
Donc, la rencontre entre la grande histoire et l'histoire personnelle, pour moi, c'est fondamental. Et quand je m'intéresse à la vie de quelqu'un, je ne peux pas m'empêcher de m'intéresser à cette rencontre avec l'histoire.
Est-ce que quand vous parlez de colère, d'un rapport, j'imagine, douloureux, ambigu, en tout cas à votre identité française, est-ce que ça a un lien avec votre départ aux États-Unis ? Est-ce que ça a été une opportunité à saisir ou est-ce que quelque part c'était une petite libération aussi ?
Pour moi, la question de la France est quelque chose de très important. Vous avez peut-être remarqué que dans mes livres, il y a d'abord des biographies d'écrivaines françaises, il y a ensuite deux livres sur les Françaises, Regard sur les Françaises, Nouveau regard sur les Françaises. L'homme dont j'ai fait la rencontre et dont j'ai raconté la vie au Goulag,
Jacques le Français,
il était franco-polonais, on l'appelait Jacques le Français au Goulag. Alors ça, je crois que je le dois à ma mère, parce que ma mère était tellement une amoureuse de la France, tellement inconditionnelle, si vous voulez, qu'elle, évidemment, elle en avait renoncé complètement à son identité. Et je crois que pour faire plaisir à ma mère, j'ai fait d'abord des études de français, de littérature française. Et puis, je me suis intéressée passionnément à la France. Et quand je suis partie, un peu par hasard, aux États-Unis, j'ai emporté avec moi, à la semelle de mes souliers, ma patrie, qui est ma langue, la langue française, à laquelle je suis viscéralement attachée. Depuis que je suis partie aux États-Unis, je n'ai jamais revécu en France complètement. Mais j'ai gardé cet amour de la France, de l'histoire de France, de la littérature française qu'avait ma mère. Et c'est là que, je crois, ma génération, telle que nous l'avons vécue avec mes parents, et je crois que beaucoup de gens de cette génération, et beaucoup de Juifs en particulier, l'ont vécu comme ça, c'est une attitude très différente de ce qui se passe aujourd'hui avec les identités. Hein. Nous voulions devenir français, plus que français, plus français que les Français. Aujourd'hui, quand on n'est pas français d'origine, on revendique son identité. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait en écrivant ces livres. Mais pour moi, avouer que je n'étais pas française de souche pendant très longtemps, c'est vrai que c'était une honte. Vous avez eu raison d'évoquer ce nom.
Et vous avez dit aussi, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous m'avez dit quand je vous ai demandé ce que ça avait eu de si violent aussi, cette déclaration de votre mère, ce coming out quelque part, vous m'avez dit ce qui était douloureux, c'était de ne plus faire partie de rien, c'est-à-dire de ne plus avoir cette identité dont vous êtes en train de me parler. Finalement, est-ce que c'est pas, vous avez réparé ça aussi en écrivant ces livres, vous avez réparé une certaine appartenance ou en tout cas...
C'est vrai. Aujourd'hui, je pense que les immigrés d'aujourd'hui ou les enfants d'immigrés d'aujourd'hui ont raison de revendiquer leur appartenance et leur identité parce que ça a été très névrotique ce qui nous est arrivé à nous. Ce silence, ce refoulement, ce traumatisme, j'ai mis toute ma vie pour en venir à bout. Il vaut quand même mieux dire la vérité, dire les choses telles qu'elles sont, dire qu'on n'est pas français, qu'on est une fille immigrée, oui, il faut le dire.
Et puis l'histoire est tellement douloureuse, enfin votre histoire, celle de votre famille, etc., qu'autant s'y confronter directement plutôt que d'y rajouter une douleur en plus de silence.
Bien sûr, mais ça va de pair avec la grande histoire. Hein. Il faut dire que mon histoire personnelle, c'est aussi l'histoire collective.
Bien sûr, avec ce silence collectif qui l'a été aussi. Vous avez parlé de votre essai « Regard sur les Françaises » qui a été un essai très remarqué en 1984, le premier tome, le deuxième également aussi. Est-ce que vous croyez que vous qui avez si longtemps joué la Française, je le mets entre guillemets, vous saviez peut-être mieux qu'une autre que ce rôle, cette identité de femme française pouvait avoir de jouer justement d'artificiel ?
Ce que je veux dire là-dessus, c'est que j'aurais jamais écrit un livre sur les Françaises si je m'étais pas expatriée aux États-Unis. Et le départ aux États-Unis, ça a été vraiment pour moi une ouverture extraordinaire par rapport à cette enfance que nous venons de décrire, parce que ce que j'ai découvert aux États-Unis, j'ai découvert plusieurs choses aux États-Unis. J'ai découvert la sororité, ce que j'appelle la sororité, c'est pas un mot qui est encore très utilisé.
Il y a un essai qui vient de sortir sur la question. Ouais.
Donc, la sororité, pour moi, ça aussi, c'est une des valeurs essentielles de ma vie, l'amitié entre femmes et entre hommes, avec les hommes aussi d'ailleurs, et ça, c'est mon côté français. Mais la sororité, c'est quelque chose qui n'existait pas à mon époque en France. Et que j'ai trouvé véritablement aux États-Unis. Tout d'un coup, je me suis aperçue que les mouvements féministes que je fréquentais aux États-Unis et que je fréquentais aussi en France étaient différents. Culturellement, il y avait une différence dans les féminismes français et américains. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire sur les Françaises, parce que de loin, je les voyais mieux que de près. Pour la différence entre les Américaines et les Françaises, pour moi, quand j'ai écrit « Regard sur les Françaises », c'est que j'ai noté que la société française était une société très mixte, où les hommes et les femmes, j'avais l'impression, en tout cas, avaient d'assez bons rapports. Et c'est vrai qu'ils les avaient davantage, je dirais, à cette époque-là, qu'avec la révolution sexuelle que nous avons voulu à partir dans les années 70. Je crois que il y avait ça qu'il n'y a plus aujourd'hui, d'où les mouvements que nous connaissons. Je considérais, comme par exemple Benoît de Groux a écrit un livre sur le féminisme au masculin, que les hommes pouvaient être féministes, chose qui aujourd'hui, comme vous savez, il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Les hommes pouvaient être féministes. Nous avons eu des hommes féministes dans la culture française depuis Condorcet, Poulain de la Barre. Beaucoup d'hommes, beaucoup de grands écrivains ont été féministes. Donc j'avais cette approche, plus que l'approche américaine qui déjà consistait à se séparer des hommes, par exemple, à faire des réunions entre femmes, à sortir entre femmes. Mais je comprends ce qui se passe aujourd'hui mieux, je crois. Je comprends que cette approche américaine soit venue en France, qu'il y ait eu le mouvement MeToo en France comme il l'est actuellement, ou le mouvement sur l'inceste, etc. Parce que je crois, c'est une idée que je développe en ce moment, je crois que la révolution sexuelle que nous avons voulu et vécu à partir de mai 68, mais surtout dans les années 70, ça a été perçu par les hommes et par les femmes d'une manière différente. Les hommes de notre génération se sont dit « jouir sans entrave ». Donc, on fait absolument ce qu'on veut, avec qui on veut, quand on veut. Et ça les a amenés à des comportements comme ceux qui sont dénoncés aujourd'hui, et particulièrement, vous remarquerez, chez les hommes de cette génération-là. C'est-à-dire, violer, forcer, etc., ne pas se soucier du consentement. Alors que pour nous, la révolution sexuelle, ça a été surtout quand est arrivée la contraception, l'avortement, etc., c'était, au fond, je prends toujours cette métaphore parce qu'elle m'est chère, au bal, autrefois, les jeunes filles, elles attendaient d'être invitées pour aller danser. Autrement, elles faisaient tapisserie, comme on disait. On voulait pouvoir danser au bal avec qui on voulait. C'était ça pour nous, la révolution sexuelle. C'était véritablement avoir plusieurs amours et puis vivre ces amours comme on le voulait, comme on le désirait soi. Et si vous voulez, ça a donné chez les hommes une espèce de résistance, parce qu'au fond, la sexualité masculine est telle, ou était-elle, je ne sais pas si elle a évolué, qu'il y avait un certain plaisir à forcer, et que quand la personne était consentante, ça les intéressait moins, finalement. Donc, si vous voulez, il y avait, chez nous, il y avait le désir de pouvoir choisir soi-même, alors que les hommes voulaient continuer à choisir eux, qui ils voulaient. Oui. Et de préférence, quelqu'un qui se dérobait, parce que c'était peut-être plus excitant, je ne sais pas. Donc, voilà comment je vois aujourd'hui ce qui se passe et les conséquences de ce qui s'est passé à ce moment-là.
Et vous, dans votre vie amoureuse, ça a eu des conséquences? C'est quelque chose sur lequel vous avez eu des désillusions? Je pense à votre roman Constance et la cinquantaine. Les rapports aux hommes, ça a été quelque chose de plutôt fluide?
Lorsque je me suis mariée, j'avais 19 ans, j'étais enceinte presque tout de suite. Mon jeune mari, parce que le mot mari n'est pas celui qui convient le mieux, c'était un communiste, trotskiste, poète. Nous vivions dans ce climat déjà. Et donc, nous avons décidé que d'accord, nous étions mariés, mais que nous allions appliquer ce qu'on appelait le contrat sartrien, que maintenant on appelle le contrat beauvoirien, c'est-à-dire qu'on est avec une personne, Fourier appelait ça la pivotale, et puis autour, il y avait les adjacentes. Alors nous, on a mis ça au masculin, il y avait le pivotal et les adjacents. Et donc, on avait la liberté, parce que cette liberté, on l'avait quand même voulu, les uns et les autres, les hommes et les femmes. Mais il y avait quand même cette espèce de malentendu dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, et qui moi, quand j'avais 20 ans, à l'occasion en particulier d'une histoire singulière, m'a mise très très en colère. Donc c'était pas simple, mais je crois qu'on était quand même dans un bon milieu pour les rapports avec les hommes entre, disons, 68 et puis les années 80-90. En plus, il faut reconnaître qu'on a eu quelques années merveilleuses de ce point de vue-là dans les années 70, avant le sida. Entre la contraception, l'avortement et le sida, il y a eu quelques années.
10 ans.
Oui, 15 ans. Il y a eu quelques belles années. Donc, mais dans le livre auquel vous faites allusion, Constance et la cinquantaine, où j'ai essayé de montrer cinq amis qui habitent dans des pays différents, parce que pour moi c'était très différent, très important la comparaison entre les cultures. Il y a la juive américaine qui devient lesbienne, il y a la française, la parisienne, qui a une grande liberté sexuelle, qui est légère, qui est très féministe et qui ne veut absolument pas d'homme dans sa vie. Il y a Constance elle-même qui est professeure dans une université américaine et puis qui a alors ce problème des femmes de 50 ans, qui a un amant plus jeune et qui est obligée d'y renoncer. Et toutes toute la cinquantaine, c'est la fin, d'une certaine manière, c'est la fin de la séduction. Hein. Et la séduction, pour des Françaises de ma génération, c'était quelque chose de très important. On devient invisible, c'est le moment où on devient invisible.
C'est ça qui vous a poussé à l'écrire, ce livre, cette sensation-là, ce sentiment-là?
Je voulais montrer, parce que j'avais fait une anthologie de l'amitié avant ça, et j'arrivais pas à trouver de livre, pourtant il y a une quantité de textes depuis l'Antiquité, et je n'avais pas arrivé à trouver de textes sur l'amitié féminine qui me conviennent. Et pour moi, l'amitié féminine, c'est franchement, c'est une des consolations de, par exemple, de la vieillesse. Hein, on les copines, c'est très très important pour. Je pense que pour des femmes de votre génération aussi.
Peut-être les gens qu'on admire le plus.
Les autres femmes.
Les autres femmes.
C'était ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui me gênait chez les Françaises, justement, par rapport aux Américaines, c'est que les Françaises, jusqu'à cette époque-là, en tout cas, n'étaient pas féministes. Hein. Je me souviens que quand j'ai écrit De l'alcôve à la reine, le deuxième regard sur les Françaises, dans ma préface, j'ai dit, dans mon introduction, les femmes, c'est un gros mot d'être féministe en France. On peut pas dire je suis féministe parce que on vous envoie promener, c'est ringard. Le livre a été publié en 2007. Hein, évidemment, c'est pas hier matin, mais c'est pas si vieux. Hein. Dans d'autres cultures, par exemple les Chiliennes, elles sont très féministes. Elles l'ont toujours été et elles osaient le dire. Les Françaises, pendant longtemps, ça a été difficile parce que c'était faire la guerre aux hommes. Quoi.
Et vous ne croyez pas que ça a un rapport aussi avec ce que vous venez de dire, sans jeter l'opprobre sur la séduction qui a tout ce qui va de bien avec, mais le fait que la séduction soit si importante, que ça impose forcément un rapport de compétition entre femmes?
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait lié, vous avez raison. Et j'ai l'impression que dans votre génération, ça change un peu. Est-ce que je me trompe?
Non, je crois que vous avez raison. Je crois que la sororité, c'est quelque chose qui a été amené il y a maintenant 3-4 ans avec MeToo. Alors évidemment, comme vous le dites, les amitiés féminines, elles ont toujours existé. Mais ce sentiment de bienveillance, et je crois parfois qu'on se l'impose presque, c'est-à-dire que naturellement, on n'irait pas vers de la bienveillance, mais qu'on se dit « Attends, là, je sais ce qui est en train de se passer et là, il faut que je me montre bienveillant. » C'est quelque chose qui est assez nouveau. Je serais assez d'accord avec vous pour le dire.
Je crois que là, vraiment, depuis 3-4 ans, tout ce que j'ai dit à propos de la France, maintenant, est en train de passer à l'histoire, si vous voulez. Mais en même temps, j'en suis très contente parce que je crois que c'est un passage et c'est un bon passage qui nous emmène vers, je crois, un avenir meilleur pour les femmes.
Sur l'amitié féminine, il me reste à vous raconter que cette interview de Michel Sard, elle a justement eu lieu grâce au lien qui l'unisse à Isabelle de Courtivron, qu'on a interviewée il y a quelques mois pour Vieille Branche, et qui nous a écrit des mails par la suite pour nous dire « En fait, il faut absolument que vous parliez avec Michel Sard, son amie donc ». Elle raconte d'ailleurs, elle aussi, Isabelle, à quel point, quand on était féministe en France à la fin des années 90 et au début des années 2000, on expérimentait une forme de rejet à la française, qu'on ne vivait ni aux États-Unis, ni d'ailleurs au Chili, où Michel vit.
Je dois dire que je suis étonnée que ça ne me fasse pas souffrir. Parce que vient un moment, alors là, on passe au grand âge, hein, où ça ne compte plus de la même façon. Quand j'étais plus jeune, je me disais, ça doit être terrible d'être vieille. On n'est plus désiré, on n'est plus aimé, on n'est plus courtisé. Et puis, en réalité, non, pas du tout. C'est mieux. C'est mieux parce que la passion amoureuse, la sexualité, tout ça, c'est source de beaucoup de souffrance. On en a fini avec ça. On en a fini avec la libido, parce que quand même, bon, ça...
Ça stasse.
On en a fini, vous avez vu que Jane Fonda a dit récemment « Je ferme la boutique ».
Ouais, elle a dit « Terminé, bonsoir ».
Et alors se développe autre chose qui est beaucoup plus... qui rend beaucoup plus heureux, qui est l'affectivité. L'affectivité, avec, si on a la chance d'avoir un compagnon ou une compagne, enfin, bon, un significant other, comme disent les Américains, avec qui on vit, ce qui est mon cas, bien c'est une relation beaucoup plus pacifiée, beaucoup plus tendre, beaucoup plus coopérative. C'est Colette qui disait à la fin de sa vie que l'amour n'est pas un sentiment honorable. Je pense qu'elle n'avait pas complètement tort. Quand l'amour est remplacé par un sentiment qui est fait plutôt d'amitié, puisqu'on a beaucoup parlé d'amitié, de respect, de tendresse, c'est beaucoup plus doux à vivre et ça rend beaucoup plus heureux. Et au fond, on regrette pas, enfin, en tout cas moi, je ne regrette pas les passions tumultueuses de mes jeunes années. Non, ça pas du tout. Je crois que on peut vieillir heureux parce que, et ça, je voulais aussi vous en parler, je crois que on n'est pas le même toute sa vie. Je regarde ma vie, je me dis, je ne suis pas celle que j'étais à 5 ans, ni à 30 ans, ni à 50 ans non plus. J'ai évolué pour faire plus d'ouverture aux autres, d'amour des autres, de compréhension des autres. D'ailleurs, ça a nourri mon écriture, parce que quand on est romancier, évidemment, on s'intéresse aux vies des autres. Quand on est biographe aussi, j'ai beaucoup écouté les autres. J'ai enseigné, j'ai beaucoup écouté mes étudiants, mes étudiantes. Donc, on est ouvert aux autres, on peut les aider en transmettant. Alors, on peut transmettre comme je le fais par l'écriture, mais on peut le transmettre de mille façons. On peut être très utile pour les autres. Et je vois mes amies qui ont mon âge, qui vieillissent heureuses, certaines, hein, pas toutes, il y en a pour qui c'est difficile, mais elles vieillissent heureuses. Par exemple, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, je trouve, c'est les petits-enfants. Hein. Les petits-enfants pour une femme, pour un homme aussi d'ailleurs, hein. C'est quand même c'est un bonheur, hein, parce que vous retrouvez votre enfance, le petit enfant il vous aime, il vous voit pas vieille, il vous voit, vous êtes sa grand-mère, vous êtes sa mamie, donc il vous aime profondément parce que vous lui donnez tout ce que vous pouvez donner, que vous êtes à l'écoute. Il y a un bonheur à toucher un enfant. Enfin, je suis éblouie par les petits-enfants. Et ça peut être les miens, ça peut être ceux des autres. Ça n'a pas tellement d'importance. Mais
c'est mieux que quand vous aviez 30, c'est mieux que quand vous aviez 20 ans. Et
c'est autre chose, hein, parce que quand j'avais, surtout, j'ai eu un enfant dans de telles conditions. J'avais tant de choses à faire. Je veux dire que je pouvais pas vraiment en profiter comme j'ai profité après des petits-enfants. Ça, c'est un des bonheurs de la vieillesse. Et c'était aussi un bonheur pour les hommes. Hein. J'en connais beaucoup pour qui c'est, les petits-enfants, c'est fondamental. Vous voyez, par exemple, avec la pandémie, qu'est-ce que demandent les gens âgés? Ils veulent revoir leurs petits-enfants, continuer à les garder. Ça, c'est quelque chose. C'est un des bonheurs de la vieillesse. Il y a aussi le fait, je crois, enfin pour moi en tout cas, que... comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis plus la même. Je crois que on est tous pareils, on évolue. Enfin, certains évoluent peut-être plus que d'autres. Moi, j'ai le sentiment d'avoir énormément changé au cours de ma vie. J'ai eu la chance de vivre dans des pays différents, dans des cultures différentes, où j'ai dû m'adapter et où ça m'a changé. Maintenant, je comprends mieux mes erreurs, par exemple mes erreurs idéologiques, parce que j'en ai fait des quantités. J'étais d'une telle naïveté quand j'avais 20 ans. On a cru à la révolution algérienne, par exemple. On a cru que Khomeini allait changer l'Iran. On a été communiste. Enfin, toutes sortes d'erreurs, je trouve, pour lesquelles je ne me sens pas coupable, mais qui m'ont aidée à grandir. Qui m'ont aidé à comprendre que, on se trompe. On se trompe souvent.
On se trompe souvent.
Il ne faut pas en avoir peur. faut pas être trop tranchant, parce qu'après, on peut le regretter. Quand j'ai rencontré Jacques Rossi, qui avait fait, lui, un communiste pur et dur, qui se serait tué pour le Parti communiste, qui a été pris dans les purges de Staline et qui a passé 19 ans dans un goulag, sans comprendre pourquoi il s'est senti communiste encore pendant des années. Je pensais que moi-même, j'avais été une étudiante communiste au début. D'abord, j'ai eu un peu honte. Et puis ensuite, il y a la résilience. Hein, on transforme ça en besoin de vérité, en besoin de transmettre cette vérité. Et au fond, je vous dirais que vieillir, quand on a la chance de vieillir dans de bonnes conditions, c'est grandir.
Vous n'êtes pas la première à me dire ça. J'ai un souvenir de l'actrice Liliane Rovert qui, au lieu d'utiliser le mot vieillir, utilisait le mot grandir tout le long. J'ai, du coup, vous le savez, une dernière question, Michel, avant de vous laisser à Santiago. Qu'est-ce que vous avez peur de la mort ?
Alors, a priori, je vous dirais oui, j'ai peur de la mort, une peur animale, une peur viscérale de la mort, comme tout le monde, hein, c'est normal. Quand j'y réfléchis un petit peu plus, je dirais j'ai au moins aussi peur aujourd'hui de la mort des autres que de la mienne, au point que pour certains, je préférerais mourir avant eux plutôt que de les voir mourir. Il y a ça. Et puis, si j'analyse un peu, je me dis, au fond, la mort, bon, j'ai beaucoup réfléchi depuis quelques années, au fur et à mesure que je me rapproche de la mort, puisque le temps qui reste est quand même assez court. Il y a la mort, il y a le pendant, il y a l'avant, il y a l'après. Je congédie tout de suite l'après, parce que je ne suis pas croyante, je ne me vois pas dans une vie après la mort. Donc ça ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète le plus, c'est avant, c'est l'agonie, c'est la souffrance. Mmh. Et cela d'autant plus que, par exemple, quand j'ai essayé de reconstituer la fin de mon grand-père à Auschwitz, décrire, évoquer une agonie dans ces circonstances épouvantables, oui, ça fait très peur. Mais je me dis qu'avec un peu de chance, je vis au XXIe siècle, dans des pays civilisés, il y a les soins palliatifs, il y a la sédation, j'espère que la loi passera un jour sur la mort dans la dignité, je suis tout à fait pour. Je me rassure comme ça. Le pendant, ça me fait pas peur parce que, par exemple, j'adore quand on m'opère les anesthésies. J'ai l'impression que ça doit être un peu comme ça. À un moment, vous êtes allongé, là, vous attendez votre piqûre et puis plus rien. Moi, je pense que la mort.
Ce ne sera pas très différent. De...
Mais je vous dis, j'aime la vie, donc j'espère que je vivrai aussi longtemps que possible parce que, au fond, ce que je veux, c'est transmettre, c'est laisser une trace. Tout le temps qui me restera, je continuerai à essayer de laisser ces traces. Et puis, quand la mort viendra, j'espère que je serai prête.
Merci beaucoup, Michel Sard. Merci pour votre temps.
Merci à vous. Ça a été très agréable de vous parler.
Un immense merci à Michel Sard pour son temps, ses réponses et son écoute. Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Marie Misset, mixage Laurie Galligani, réalisation, coordination et prise de son Marine Rowe. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter @_vieillebranche ou alors sur Instagram @vieillebranchepodcast.
À bientôt dans Vieille Branche.